Le journal.
Le journal présenté par Lise Verbeck.
Bonsoir à tous. Après l'Arabie Saoudite ce week-end, Israël a été la deuxième étape de la tournée marathon de Donald Trump. Il a évoqué une occasion rare d'apporter la paix. Il s'est recueilli devant le mur des Lamentations à Jérusalem. C'est une première pour un président américain en exercice. Trump, qui depuis hier vise une cible, l'Iran, creusant un peu plus le fossé entre Téhéran d'un côté et Washington et Riyad de l'autre. Hassan Rouhani, le président iranien tout juste réélu, n'a pas manqué de répondre à leurs critiques lors d'une conférence de presse tout à l'heure. Compte rendu avec Omar Waman. En France, Emmanuel Macron reçoit demain syndicats et patronats pour évoquer l'une de ses priorités, réformer le marché du travail. Notre invité sera le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. Qu'attend-il de cette rencontre? Va-t-il adopter une posture d'opposition d'emblée? Il nous répondra. Le Front National peine à se remettre de la défaite à la présidentielle. Le parti se fissure encore un peu plus sur la question de l'euro. Marine Le Pen envisage le départ de Florian Philippot, son bras droit. Nous verrons ce que cela signifie avec Stéphane Robert. Il s'est recueilli longuement devant le mur des Lamentations à Jérusalem, kippa noir sur la tête, l'air grave. Donald Trump a ainsi été le premier président américain en exercice à se rendre sur le site de prière le plus sacré des Juifs. Il a également glissé dans le mur, selon la tradition, un bout de papier. Qu'a-t-il écrit? Un vœu formulé pour relancer le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Et cela pourrait bien être possible, Étienne Monin.
Lorsqu'on demande au président américain ce qu'il veut réussir ici, il dit la paix, trois fois la paix. Maintenant, on ne le saura pas parce que le petit papier glissé dans le mur devait être enlevé très rapidement pour éviter l'impaire diplomatique créé en 2008 par un journaliste israélien qui avait volé puis publié le mot de Barack Obama, alors candidat à la présidence. Ça n'est d'ailleurs pas la seule différence avec l'ancien président américain. Ce voyage a des allures de pages tournées. On l'entend à la mi-journée dans les premières phrases du président israélien. Reuven Rivlin est curieux de connaître la stratégie de paix annoncée par Donald Trump, mais il est surtout ravi du réchauffement des relations entre les dirigeants.
Je suis heureux d'en savoir plus sur vos objectifs et votre vision. Monsieur le Président, nous sommes heureux de voir que l'Amérique est de retour dans la région.
Et l'autre virage, c'est l'Iran qui redevient l'ennemi commun des deux pays. Le président américain gomme le caractère nationaliste et territorial du conflit israélo-palestinien. Pour lui, il n'y a qu'un terrorisme, celui de Daesh et de l'Iran, qui frappe de la même manière en Israël et aux États-Unis. Cette vision du terrorisme uniforme est défendue depuis longtemps par Benjamin Netanyahou. Après la signature de l'accord sous Barack Obama avec l'Iran, il avait promis de tout faire pour le déconstruire. Il semble avoir obtenu un premier geste.
Et Trump, qui depuis hier donc tire à boulets rouges sur l'Iran, le pays ne doit jamais être autorisé à avoir la bombe nucléaire, dit-il. À ces critiques auxquelles s'ajoute celle de l'Arabie Saoudite, la réponse du président iranien n'a pas tardé. Réponse cinglante, Omar Waman, aujourd'hui lors d'une conférence de presse.
À peine réélu, Hassan Rouhani doit affronter une guerre des accusations qu'il ne pouvait laisser sans réponse. À l'Arabie Saoudite, qui a qualifié le régime iranien de fer de lance du terrorisme mondial, il répond caustique que le peuple américain n'oubliera pas le sang versé le 11 septembre 2001, une façon de rappeler que 15 des 19 auteurs des attentats étaient saoudiens, avant d'ajouter que ceux qui ont soutenu les terroristes ne peuvent pas les combattre. À Donald Trump, qui a exhorté les pays musulmans à isoler l'Iran, Hassan Rouhani déclare qu'il se trompe, comme ses prédécesseurs qui ont attaqué l'Afghanistan ou l'Irak, et d'ironiser en demandant aux journalistes s'ils connaissaient un seul exemple où les États-Unis ont agi sans se tromper. Sur les essais de missiles balistiques auxquels Téhéran a coutume de procéder et que Donald Trump espère voir cesser, le président iranien, modéré, affirme que si son pays doit en effectuer de nouveau, il ne demandera la permission à personne. Une passe d'armes qui augure très mal de l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Iran.
Le cas de la Grèce, toujours débattu entre les ministres des Finances de la zone euro en ce moment même à Bruxelles. La négociation pourrait aboutir à au moins un accord de principe pour débloquer une nouvelle tranche d'aide à Athènes. En revanche, l'allègement de la dette publique ne risque pas d'aboutir. La situation déjà très tendue dans le sud de la Tunisie pourrait bien s'enflammer. Un jeune manifestant est mort aujourd'hui. Il a été accidentellement écrasé par un véhicule de la gendarmerie. Une cinquantaine de personnes ont également été hospitalisées pour asphyxie au gaz lacrymogène ou fracture. préfecture à cause de heurts entre manifestants et forces de l'ordre à El Kamour et à Tataouine. Depuis un mois, les habitants réclament une meilleure répartition des richesses et des recrutements prioritaires dans les sociétés pétrolières de cette région. Ils bloquent notamment la circulation des camions vers des champs pétroliers et gaziers. En France, les deux premiers dossiers sociaux qu'a à gérer le gouvernement, GMS et Tati. Les salariés de l'équipementier ont obtenu des deux constructeurs PSA et Renault des commandes supplémentaires. Mais pour les syndicats, c'est de la poudre aux yeux. Cette annonce n'est que du sursis, selon eux. Le tribunal de commerce de Poitiers doit se prononcer demain sur sa possible liquidation judiciaire. Les salariés de Tati, eux, ont obtenu aujourd'hui une promesse de la ministre du Travail. Muriel Pénicaud leur a assuré de faire son maximum. L'audience d'examen des offres de reprise de Tati a lieu lundi prochain. Ces deux dossiers seront certainement évoqués demain entre les partenaires sociaux et Emmanuel Macron qui les reçoit à l'Élysée. Bonsoir Jean-Claude Mailly.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Alors un mot d'abord donc sur la gestion par le gouvernement de GMS et Tati notamment. Que pensez-vous de l'action du gouvernement dans ces deux dossiers ?
Bah écoutez, sur le dossier GMS, le gouvernement a pris contact avec, c'est la partie de son rôle, hein, d'ailleurs à notre demande, hein, a pris contact avec les deux constructeurs. J'espère que ce dossier, qui n'est pas nouveau, hein, c'est un moment qu'il traîne ce dossier, trouve une issue positive. Trouver une issue positive, ça veut dire que l'activité de l'entreprise perdure. C'est une entreprise importante pour le département de la Creuse, en emploi direct et indirect. Et je pense que sur ce dossier, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, donc en espérant que ça se poursuive et que ça se conclue positivement. Sur Tati, ben, il faut continuer à faire pression aussi. Ça fait partie du rôle d'un gouvernement de faire pression sur les actionnaires, les banques, etc., quel que soit le gouvernement.
Alors vous êtes reçu demain, Jean-Claude Mailly, vous et les autres partenaires sociaux, demain matin par Emmanuel Macron. Qu'allez-vous lui dire ?
Bah, écoutez, je veux surtout mesurer quelle est sa conception du dialogue social et de la négociation collective. Bon, parce qu'il a eu des phrases pendant la campagne qui étaient un peu sibyllines, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, par exemple, est-ce qu'il considère que, au niveau national, ce qui existe en France comme dans tous les pays, les syndicats ont un rôle, et pas uniquement au niveau de l'entreprise. Hein, donc, ça, c'est un premier élément, sa conception du dialogue social. Ensuite, je vais lui rappeler que, il le dit lui-même d'ailleurs, hein, depuis qu'il est élu président de la République, qu'il a une responsabilité immense. En gros, si on veut pas recrier au loup dans 5 ans. Donc ça suppose que sur les questions économiques et sociales, ça évolue et évolue dans le bon sens. Quand je dis ça évolue dans le bon sens, c'est que les salariés retrouvent du pouvoir d'achat, c'est que l'activité économique repart, ce qui pose la question nationale, mais aussi la question européenne. Et ça suppose qu'ils sachent rassembler, à la fois politiquement, mais ça c'est pas de mon ressort, ça ce sont les politiques qui s'occupent de ça, mais qu'ils ne clivent pas socialement. Ce serait quand même, si on veut rassembler, c'est pas avec un conflit tout de suite qu'on rassemble. Donc ça veut dire que les consignes qu'il va donner à son gouvernement soient d'une vraie concertation. Et une vraie concertation, c'est qu'on va au fond des dossiers et on écoute ses interlocuteurs et on est prêt à tenir compte de ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce que je veux mesurer demain, même si tout ne se règle pas demain, bien entendu.
Alors une vraie concertation, c'est ce que vous attendez dans la réforme du droit du travail qu'Emmanuel Macron veut mettre en place très rapidement. Lui, pour aller plus vite, il veut notamment légiférer par ordonnance cet été. D'abord, que pensez-vous de la méthode ?
Mais écoutez, l'ordonnance, c'est quoi ? C'est un outil. C'est un outil constitutionnel qui n'est pas l'outil le plus démocratique, ça c'est sûr. Dans une ordonnance, c'est surtout le Parlement qui est court-circuité. Parce qu'il donne une loi d'habilitation, il vote une loi d'habilitation, à la fin il vote une loi de ratification, mais jamais il ne se prononce sur le fond des dossiers. Hein. Donc, si nous sommes d'accord avec le contenu de l'ordonnance, bon, ça ne me pose pas de problème. Je rappelle que, je sais pas, il y a eu la 5e semaine de congés payés, c'était une ordonnance. Après-guerre, la sécurité sociale a été créée par ordonnance. Donc, si on est d'accord sur le contenu, si l'outil permet d'aller plus vite, bon, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si on n'est pas d'accord sur le contenu.
Justement, pensez-vous voilà. Trouver un accord ? Parce que Macron donc veut aller plus loin que la loi travail, que vous aviez contesté. Il veut donner plus de place aux accords d'entreprise. C'est entre autres ce que vous aviez combattu.
Oui, mais j'en sais rien. Aujourd'hui, j'en sais rien. Demain, je dirais peut-être le contraire. Mais quand je dis j'en sais rien, quand je lis attentivement ce qui a été écrit et dit, y compris pendant la campagne électorale, il a été dit à la fois, il faut plus de place dans l'entreprise, mais il faut aussi préserver le niveau de la branche. Alors donc, j'ai toute une série de questions précises à poser, si ce n'est au président de la République dans la foulée, enfin les jours à venir, avec le Premier ministre. C'est pas, pour le moment, en tous les cas, dans ce qui a été dit et écrit, ce n'est pas tranché. Donc justement, on veut avoir des précisions.
Enfin, ça semble tranché, par exemple, sur le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif.
C'est un problème, ça. C'est un des problèmes.
Ça, c'est un des problèmes,
oui. Oui, c'est un des problèmes. Il y a ça, il y a la fusion des institutions représentatives du personnel, qui est déjà possible. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire là-dedans? Voilà, c'est. Mais c'est, on est, ils ne sont jamais rentrés dans le détail. C'est plus des idées qui ont été lancées. Après, il y a la faisabilité des choses. Et puis, si, en gros, si c'est une loi travail XXL, oui, il y aura problème. Hein, ce qu'on a refusé l'année dernière, on ne va pas l'accepter maintenant. Donc, mais là encore, je dis bien, être président de la République, ça n'est plus être ministre. Donc, si il veut que les choses se passent correctement, notamment sur le plan social, bah, il faut qu'il non seulement il écoute, mais qu'il entende ce que les syndicats ont à dire. Donc, on va mesurer son degré d'écoute, quoi. C'est ça qu'on va mesurer.
Merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, d'avoir été notre invité ce soir. Vous serez donc demain reçu par Emmanuel Macron avec les autres partenaires sociaux. La réforme du Code du travail, l'une des priorités d'Emmanuel Macron. L'autre priorité, c'est la loi de moralisation de la vie publique menée par François Bayrou. Le ministre de la Justice a reçu ce matin des associations anticorruption pour étayer le projet de loi. Le texte prévoit entre autres de durcir les règles de financement des partis politiques, mais aussi d'interdire aux parlementaires d'embaucher quelqu'un de leur famille. Une fausse bonne idée pour l'avocat Jean-Christophe Ménard, spécialiste des questions de financement des partis politiques.
Cette proposition d'interdire les emplois familiaux, on voit bien à quoi elle répond. Cette proposition vise à répondre à l'affaire Pénélope Fillon. Bien. Mais il faut se méfier des fausses bonnes solutions. Interdire les emplois familiaux, c'est déjà en vigueur au Parlement européen et on a pu se rendre compte que ça n'a pas résolu toutes les difficultés, et notamment avec l'affaire qui concerne le Front National. Ensuite, ça soulèvera des difficultés puisqu'il s'agira de savoir à partir de quel seuil de parenté, à partir de quel degré de parenté, il y aura interdiction de recruter telle ou telle personne. Et enfin, ça n'empêchera ni les emplois fictifs, ni les recrutements de complaisance. Les recrutements de complaisance, ça consiste à recruter un ami, un proche de l'un de vos amis, et ça n'empêchera pas les emplois fictifs, comme on a pu le constater dans l'affaire Pénélope Fillon. Donc, le problème, il se situe plus au niveau des contrôles. Dans l'affaire Pénélope Fillon, ce qui a péché, c'est l'absence de contrôle du déontologue de l'Assemblée nationale. Si on avait eu des contrôles, là, on aurait pu identifier s'il y avait emploi fictif ou non, s'il y avait conflit d'intérêts ou non. Donc, cette proposition, elle relève de l'évidence, mais elle ne résout pas forcément toutes les difficultés.
Difficile pour le Front National de se relever après l'échec à la présidentielle. Le parti se déchire en son sein, notamment sur la question de l'euro. Marine Le Pen envisage même un possible départ du FN de son bras droit, Florian Philippot. Est-ce que cela veut dire que le parti est en plein renouveau, comme Marine Le Pen l'avait promis au soir de sa défaite le 7 mai dernier? Quoi qu'il en soit, Stéphane Robert, le FN tangue.
Si divorce il doit y avoir et recomposition, c'est à l'occasion du congrès prévu au mois de novembre que ça pourrait se dérouler. Pour autant, le Front National file un mauvais coton. Et ça, c'est à cause du score de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, 34%. 34%, disent un certain nombre de militants en interne, c'est le score qu'on espérait en secret pour le premier tour, pas pour le second tour. Dès lors, beaucoup se posent des questions. Est-ce que la ligne défendue jusqu'ici était la bonne? La ligne en partie fixée par Florian Philippot, notamment la sortie de l'euro. Marine Le Pen s'est bien rendu compte que ça faisait peur à une majorité de Français, raison pour laquelle elle propose aujourd'hui d'en rediscuter. Et du coup, la question du maintien de Philippot dans ses fonctions numéro 2 est posée. Ou plutôt, sera posée d'ici quelques semaines ou quelques mois. Tout dépendra du score du FN aux élections législatives et surtout du nombre de députés qui seront élus à l'Assemblée le 18 juin. En fait, le problème est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. Car il y a toujours eu deux lignes au FN. La première est la ligne identitaire et libérale. Ça, c'est la ligne historique, originelle, que défendait Jean-Marie Le Pen et plus récemment sa petite-fille, Marion Maréchal. Et la seconde, c'est la ligne étatiste souverainiste défendue par Philippot, qui a permis certes d'élargir le socle électoral du parti, mais qui est en contradiction avec la ligne originelle. Et ce mariage hétéroclite et forcé ne tenait jusqu'ici que parce que le Front National se trouvait dans une progression, dans une dynamique électorale. Or, la présidentielle semble pour la première fois avoir marqué un coup d'arrêt en la matière. Et du coup, la fracture apparaît au grand jour. Marion Maréchal est partie, Florian Philippot pourrait faire de même. Dès lors, après la ligne, pourrait aussi se poser par la suite la question de la candidate. Est-ce que Marine Le Pen est la bonne candidate pour emmener le Front National à la victoire ?
Le temps pour demain, du soleil partout sauf dans l'ouest où le ciel sera gris. Il fera entre 19 et 27 degrés.